quoi être un homme aujourd'hui. Depuis l'avènement du féminisme et la fin du modèle traditionnel, papa au boulot, maman au fourneau, de nombreux hommes s'interrogent sur leur masculinité.
Change, sauf qu'il y a un certain groupe d'hommes qui ne veulent pas, n'acceptent pas ces changements. C'est ça la crise de la
masculinité. Et si un jour, il me demande, dis-moi papa, qu'est-ce que c'est qu'un homme?
Ouais.
Qu'est-ce que je vais leur répondre?
Quand tu dis c'est évident.
Ah bah non, mais c'est on est extrêmement fragile en fait.
Et ça, c'était... Toi, quand t'as grandi, c'était un truc qui était possible? Ou ça l'était pas? Tu vois, ça rapport à l'émotion?
Non. Ben, non, si tu veux, dans le cercle familial, l'émotion des hommes, on n'en parle pas, quoi. C'est quelque chose qui est... Voilà. Comme tu dis, quoi, un homme, ça pleure pas, quoi. Un homme, c'est quelqu'un qui... Voilà. Et moi, c'était les images que j'avais et les repères que j'avais, quoi. Moi, j'ai vu pleurer mon père quand ma mère est morte, quoi. Autrement, je l'ai pris dans mes bras quand ma mère est morte, quoi. Donc, tu vois bien que, toi, j'avais 30 ans, quoi. Donc, voilà. Mon père avant, c'était pas quelqu'un avec qui je partageais des émotions, quoi. Je partageais du travail, quoi. Voilà, donc c'est ces constructions en fait, ouais, qui sont voilà, moi je suis issu du milieu agricole et c'est vrai qu'en agricole, faut dire un paysan c'est quelqu'un qui bosse, quoi. Point barre. On ne demande pas autre chose. Donc après, ben, ça peut devenir quelqu'un qui pense, et moi ça a été ça. Voilà. J'ai mis de la pensée, non, en fait, sur un corps physique.
Clairement pas. C'était pas quelque chose de simple parce que, encore une fois, tu grandis dans un environnement et ce qui se passe dans cet environnement tend aussi à te donner l'information de ce que tu dois faire ou pas. En ayant grandi dans un quartier, bah tu grandis dans un quartier dans lequel, à un moment donné, tout le monde... T'as principalement que des gamins qui jouent aux hommes. Même les plus âgés, même les adultes sont beaucoup des gamins qui jouent aux hommes. Ouais, t'en as beaucoup comme ça. Et ceux qui tiennent, en fait, sont ceux qui essayent... On se met la pression, parce qu'en vérité, beaucoup de ceux qui mettent la pression sont des gens qui sont... qui existent que comme ça, en fait. Et la fragilité, tu te fais bouffer si t'es fragile. Et donc, quand tu grandis dans ça, à un endroit, tu te fabriques cette croyance que c'est pareil partout. Tu vois. Quand même dans le quartier, au final, il y a des moments où tu peux être fragile. Tu vois. Mais tu le crois pas. Parce que si t'es fragile, tu te fais bouffer. Ton adolescence, mon adolescence, elle a été comme ça, en fait, avec une fragilité, une assumée... Enfin, pas une fragilité assumée, c'est pas ça. Une sensibilité que j'ai jamais réussi à trop cacher ou machin truc, puisque au final, j'étais un artiste malgré tout. Mais en même temps, à côté, contrebalancé par une personnalité qui pouvait aussi envoyer du bois, s'il faut le dire simplement. Et voilà, et c'est dans cette dualité-là, enfin, cette dualité, c'est même pas une dualité, parce que pour moi, c'était pas en opposition, que j'ai fabriqué une partie, je crois, de ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire le problème, c'est pas de faire ou de ne pas faire, c'est de pouvoir le faire si je veux le faire. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est également dans ma construction. Je l'assimilais pas forcément à celle d'un homme à ce moment-là, mais je pense que je l'assimile à la plénitude, donc in fine à ma forme de masculinité, mais qui est le fait de pouvoir me défendre. Le fait de pouvoir défendre ceux que j'aime aussi. Le fait de pouvoir être souverain si quelqu'un s'attaque à mon intégrité physique, tu vois, Il y a la notion du corps qui est présente de manière brute à cet endroit-là. Et cette notion brute, en fait, elle est importante et elle me va, en fait. Tu vois. Parce qu'in fine, c'est présent, en fait. Ça existe. Le monde n'est pas non plus autour de nous, n'est pas non plus qu'un monde de sensibilité et de bienveillance où personne ne veut t'agresser. La réalité, c'est que parfois, on est dans des situations où il faut savoir aussi se défendre, soit contre une personne, soit contre... peu importe contre quoi, en fait. Mais il y a des moments, le fait de savoir faire ça produit une forme de... a produit chez moi, en fait, une forme de tranquillité.
Je pense que ma fille, elle m'a jamais vu pleurer. Et c'est pas que j'ai peur de lui montrer que je pleure pas, c'est que c'est quelque chose qui peut-être qui je peux pleurer quand je suis au cinéma et que je vois une scène émouvante et là il y a un truc qui monte, mais il y a quelque chose aussi de l'ordre de la peut-être du c'est mystérieux parce que en fait j'aimerais bien pouvoir montrer, je rigole, pour rire c'est plus facile, mais montrer, mais c'est même pas volontaire, hein. c'est avoir un sentiment comme ça qui monte et qui fait que je peux laisser couler mes larmes, c'est quelque chose qui arrive presque pas en public, hein. Quand je suis dans une salle de cinéma, dans le noir ou tout seul, ça peut. Mais le montrer, non.
Ton père, lui, pleurait ? Tu l'as vu ?
Oui, je l'ai vu pleurer. À un moment où il était dans un état un peu second. Où il n'était pas, entre guillemets, lui-même, mais en fait, il était vraiment lui-même. Et c'est un moment que j'ai adoré parce que j'ai enfin vu un homme qui avait laissé tomber ses a priori, ses barrières. Et il était dans un état psychologique très fragile suite à des opérations, suite à une remise en question, peut-être professionnelle, etc. Et tout à coup, on l'appelait Ruru. Je ne sais plus pourquoi, mais c'était Ruru, quoi. Et il était devenu Ruru, alors que ce n'était pas du tout son prénom, tout ça. Et il était capable d'être poète, artiste, quelqu'un d'autre que j'adore, quoi. Même quand je pense à ça, c'était vraiment un moment en dehors du temps, justement, en dehors du temps. Et voilà. Donc, c'est vrai que là, il avait enlevé son costume de... d'homme un peu qui savait tout, qui était très mental, très 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 mental. Et je suis un peu comme ça, hein, parce que je lui ressemble beaucoup avec l'âge. Et en fin de compte, ce que j'aime pas de moi, c'est ce que j'aime pas de mon père. Alors, donc ça correspond bien. Donc l'image du père reste très présente, finalement, même quand... au fond, toute ma vie, j'ai fait autre chose que ce que lui voulait faire. Mais finalement, il avait ce truc où il était... il donnait l'impression de tout savoir, de tout connaître, de tout comprendre. Et puis il était hostile aux gens qui ne pensaient pas comme lui. Et puis il était très, très dur, très, très dur, quoi. Et parfois, je me vois pareil, quoi. C'est-à-dire que je manque de peut-être de douceur, d'écoute, de compréhension, même si la vie des autres n'est pas le même que le mien. Et ben, dans ces cas, j'ai tendance à me dire qu'ils sont cons, ou que je peux, voilà, des jugements que je peux avoir. Donc, de ce côté-là, ouais. Ça me colle à la peau, ça continue, quoi. Ça s'en va pas comme ça, quoi. Voilà. Même si, à 72 ans, j'ai mon expérience et donc je peux la... Ce que je peux... Moi, ce dont je me réclame, c'est de mon expérience. C'est de pouvoir transmettre ou en témoigner, voilà.
Une arme de guerre qui venait des femmes vers les hommes et qui maintenant parfois vient aussi des hommes vers les hommes. C'est ça qui a changé.
C'est ça qui m'a frappé. Alors c'est ce que je raconte dans le livre, parce que je commence le livre sur des rencontres avec des jeunes gens de 18-20 ans et je me moque gentiment d'eux en leur disant mais qu'est-ce que c'est que cette vie que vous avez, vous vivez comme des vieux, vous êtes en petit couple à 18 ans, vous êtes là à parler d'amour, de fidélité, de romance. Moi quand j'étais jeune, et je suis pas si vieux que ça, c'était les filles qui parlaient comme ça. Et à chaque fois, ils me regardent d'un air vraiment furibard et ils me disent « Mais vraiment, vous parlez comme un macho. » Ça m'a beaucoup fait rire.
Et c'est quoi un vrai mec alors? C'est un mec qui est infidèle? C'est un type qui siffle les filles? Comment est-ce que vous l'imaginez?
Écoutez, ce que je crois, c'est qu'il y a chez l'homme, de toute éternité, j'invente rien hein, évidemment, l'homme est un chasseur. Tous les spécialistes de la technologie, tout ça savent bien que la grande division des tâches à l'origine de l'humanité, c'est l'homme qui va chasser et la femme qui préserve le bien le plus précieux en fait de l'humanité, l'invention la plus géniale de l'humanité, qui est le feu.
Et tu parles vachement maintenant du corps, et puis t'as parlé à un moment de prendre papy dans tes bras et tout. C'est marrant parce que c'était quelque chose qui était inné. Enfin, tu vois, même de faire le toucher, puis le fait de pouvoir, tu vois, prendre des gens et puis des mecs, quoi, dans tes bras. Enfin, tu vois, je veux dire, est-ce que c'était facile, est-ce que c'était pas facile? Enfin, tu vois, comment...
Bah, ça, c'est quelque chose qui était pas trop autorisé, en fait, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est dans notre construction d'hommes, en fait, prendre des gens dans les bras, bon, moi, c'était... Non, c'était quelque chose qui se faisait pas, en fait. Donc, en fait, bon. Une époque, prendre des filles dans ses bras, bon, bah, c'était, ça avait plutôt un caractère sexuel, quoi. Alors que maintenant, en fait, pour moi, ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est vraiment donner du bon à l'autre, quoi. Et le reconnaître tel qu'il est, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est être présent avec. Je crois que c'est vraiment ça, quoi. Moi quand je prends des gens dans mes bras, bon, ou des jeunes qui sont un petit peu en souffrance, ou même pendant les stages qu'on peut faire, quoi. Quand je prends des hommes dans mes bras pendant les stages, c'est vraiment une reconnaissance de l'autre, quoi, tel qu'il est. Donc ça, c'est hyper intéressant, quoi, parce que c'est vraiment une autre posture, quoi. Ça veut dire que voilà, je suis ancré, j'existe, et toi, je te reconnais
jamais en tant qu'homme,
tel
je
que
te
tu
touche.
Es en tant que...
Bah, y a un endroit où qui remonte tout de suite, c'est une intimité que j'ai pas envie d'avoir parce qu'elle me ramène tout de suite à mon identité mon identité sexuelle, mon identité de en tant que personne, qu'est-ce que je suis vraiment. Si je suis capable d'apprécier de prendre un homme dans mes bras à ce moment-là, qu'est-ce que je suis? Tout de suite, la question, en fait, de la représentation, qu'est-ce que je suis, en fait? Et le toucher, ça va très loin, hein, tu vois, moi, je vois des gens qui, si en plus ils ne sont pas à l'aise dans leur corps déjà tout seuls, ils vont pas être à l'aise dans leur corps avec quelqu'un d'autre. Donc il y a des moments, rien que le fait de se serrer, de se toucher l'épaule en dehors du serrage de main, c'est déjà compliqué pour beaucoup de gens. Et j'ai envie de dire que dans le hip-hop est arrivé un truc dans ma génération à un moment qui vient des États-Unis, qui est le fameux hug, le fait de l'accolade, le fait de prendre quelqu'un dans tes bras, voilà. Mais je pourrais faire on pourrait faire un podcast entier sur ça. un podcast entier sur ça. D'ailleurs, peut-être que je le ferai un jour. Je crois que j'ai eu des rires infinis avec ce truc-là. Parce que c'est pas notre culture de base et on l'a adopté. Moi, c'est devenu ma culture. Ça veut dire que parce qu'on était dans l'international et qu'on rencontrait des gens à l'international et que le hip-hop a fini par devenir une culture et une culture en elle-même et donc du coup qu'on rencontre les uns les autres, on a fini par se check de cette manière-là. Mais en France, c'était pas du tout naturel au départ. Et tu vois ceux qui l'ont pris parce qu'il fallait le faire, c'était drôle. C'était « et vas-y que je te prends, mais en même temps je mets mon épaule en protection, ou je mets mon bras en protection, je te check, mais en même temps j'ai mon bras parce qu'il ne faut pas non plus trop qu'on se touche la poitrine, ou il faut que... » Enfin, il y avait des choses très drôles, de qui est devenu, à un moment donné, normalement c'est une accolade, et puis petit à petit il y a une manière de faire, puis ça s'est déplacé, puis c'est devenu un check, ce qu'on appelle un check d'épaule. Ça veut dire qu'en fait, tu y vas pas, tu y vas, mais en fait, tu check l'épaule. Comme ça, c'est moins exposant, tu vois. Alors, c'est un code, on va dire, oui, on pourrait te sortir l'histoire de, oui, le check d'épaule est arrivé à ce moment-là, pour telle raison, c'était un code. Mais en fait, c'est aussi, la manière dont il a été adopté par plein, c'était aussi parce que ça a évité de se serrer pleinement dans les bras en tant qu'homme. Parce que ça, c'est assimilé dans nos biais cognitifs, c'est assimilé à se toucher sexuellement. Il y a quelque chose de sexuel qui revient. Et si je touche sexuellement quelqu'un d'autre, et qui plus est du même sexe, en fait, ça me renvoie à un trou infini dans mon identité. Donc forcément, bah, dans ce moment-là, check d'épaule, ça reste viril.
Moi, ça me fait... Ça, c'est un vrai truc sur lequel j'ai toujours, ou la plupart du temps, eu un peu de gêne. Et à commencer par ce que je disais tout à l'heure sur le rapport, au corps, hein, au rapport au corps dans le combat, dans la violence, parce que ça veut dire se confronter, ça veut dire mettre son corps en mouvement. Et j'ai un rapport au corps qui est à mon propre corps. Donc voilà, je pense que déjà, pour avoir un rapport au corps qui soit confiant avec l'autre, il faut avoir un rapport avec son corps qui soit confiant avec soi-même. Or, ce n'est pas mon cas. Donc de toute façon, j'ai eu des moments dans des stages, dans des rencontres où on s'embrasse, on fait ces trucs et où ça vient naturellement, etc. Mais je suis pas à l'aise avec mon corps, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment réussi à résoudre en réalité, y compris dans le fait de danser, de s'exposer, de se sentir à l'aise dans le jeu de main. Dans son autonomie, entre la gauche et la droite, le fait de danser. Enfin, je dis danser parce que à chaque fois que j'essaye de danser, ça devient de plus en plus dur, quoi. Et donc, dans mon rapport au corps avec l'âge, en même temps, comme j'ai eu rarement l'occasion de l'entretenir, pourtant, qu'est-ce que j'en ai entendu parler, après, c'est le rapport au corps. Sur la manière de manger, la manière de prendre soin de son corps, qui est le temple dont on parle tout le temps dans toutes les initiations. La réalité, c'est que je l'ai un peu mis de côté, quoi.
Et ça, tu penses que les femmes ne le font pas, ou font ça différemment, ont un autre rapport au corps?
Il faut leur demander, hein. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Quand on va dans les stages de yoga et de trucs comme ça, il y a beaucoup plus, même tous les stages d'ailleurs, hein, mais bon, quand on va dans les trucs, là où il y a beaucoup d'hommes, c'est dans le bodybuilding et les trucs comme ça, pour montrer ses muscles, là il y a beaucoup d'hommes, ou pour montrer qu'on est fort, ou dans le sport, il y a beaucoup d'hommes, parce qu'il y a cette culture du sport, mais dans la... Donc il y a beaucoup d'hommes dans le sport, il est partie intégrante quand même de notre civilisation. Mais dans le truc où le corps n'est plus vu comme un... n'est pas vu comme un outil de compétition, mais pour coopérer avec son corps dans la douceur, l'amitié, l'expérimentation, etc. Il y a peu d'hommes. Il y a peu d'hommes. Enfin, je crois. Enfin, de mon expérience, j'ai toujours vu beaucoup plus de femmes qui pratiquaient le tai chi ou le massage. Il y a plus de femmes qui font du massage ou plus d'hommes? C'est une question que je te pose.
On se retrouvera aux abords de la nuit, voir debout se lever. Le début de la vie, aurais-je les couilles de t'aimer, de laisser mes écailles sur le côté. Je t'écrirai, baby doll, des chansons précises. J'embrasserai le feu de tes cheveux sous la brise. Je cesserai les rates et les rondes de métaphores, petits mensonges, les alcools forts. Iras-tu au-dedans, dedans de moi, viens. Pourras-tu enfin adoucir ma voix, marier tes étoiles aux miennes, en attendant que nous reviennent les silences. Solitudes passeront entre tes mains, dis. Prendras-tu mes fugues, mes mauvais lendemains? Crois-tu au black ou paradisant? Traites-tu de mon ventre les couteaux? Iras-tu au-dedans, au-dedans de moi? Viens, pourras-tu enfin toucher ma voix, marier tes étoiles aux miennes, en attendant que nous reviennent ce silence.
À un moment donné, il est en 1982-83, je suis allé vivre pendant 4 ans dans un petit village du sud de la France, où c'était un projet penser globalement, agir localement, développer qu'est-ce que c'était la vocation de ce village d'un point de vue communautaire, comment travailler ensemble. Et à un moment donné, on n'était pas si nombreux que ça, on était une trentaine de jeunes, quoi. Quel type d'éducation pour les enfants, enfin, toutes les questions qui peuvent se poser, qui continuent à se poser, mais à l'époque, on était vus comme des rigolos, des doux rêveurs, mais c'était des gens qui venaient de la ville et qui voulaient se construire une autre vie. Et la question se posait justement... entre l'homme et la femme. C'était une des questions d'un moment. On a passé une journée comme ça à réfléchir ensemble. Et ce qui en est sorti, c'est qu'il était beaucoup plus difficile pour un homme de changer que pour une femme. Parce qu'aujourd'hui, les femmes qui ont... Voilà, c'est difficile de résumer en quelques mots, mais nous, on a tellement été dominateurs de tout qu'aujourd'hui, tout est remis en question sur notre... sur notre domination, y compris ces derniers temps. Et on ne peut plus rester sur le même piédestal, et il faut trouver un nouveau modèle. Or, ce nouveau modèle, il peut pas être pré-inscrit, il n'y a pas un menu, c'est quelque chose à découvrir en soi. Et c'est, moi, je pense que c'est... Alors, on va le chercher par des stages, par des formations, par des rencontres. Aujourd'hui, il y a une prolifération de gens qui vont essayer justement de transformer ça. Et puis même la démarche que tu as aujourd'hui, Samuel, d'aller interviewer les gens là-dessus, ça procède de ça. C'est-à-dire d'aller chercher sur quoi on peut évoluer, sur quoi on peut avancer. Et la réponse, elle est peut-être collective, mais elle est avant tout individuelle. Et moi, ce que je remarquais, mais il y a déjà 30 ans, c'est que c'était un vrai sujet très, très compliqué, alors que c'était peut-être plus simple parce que la femme avait été dominée, qu'elle pouvait revendiquer la liberté et ouvrir des brèches, alors que nous, il fallait qu'on abandonne un costume. Et abandonner un costume, se défaire de ses habitudes, de ses trucs, c'est peut-être plus difficile que de gagner, de gagner une liberté qu'on n'a jamais eue, quoi.
À la fois on est fragile, et à la fois aussi, chaque individu est capable de mobiliser sa puissance de vie. Donc tu vois, c'est je pense que c'est pas contradictoire, quoi.